Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Heureux de vous retrouver après cette très longue absence estivale. En Biélorussie, depuis le 9 août dernier, la proclamation du résultat des élections qui aurait accordé à Alexandre Loukachenko 80% des suffrages, les Biélorusses sont dans la rue. Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et les principaux opposants qui n'ont pas été incarcérés ont fui le pays. Mais cette féroce répression n'entame en rien la détermination de la population. Ni vraiment anti-russe, ni franchement pro-européenne, elle réclame simplement le départ du dernier dictateur d'Europe et la tenue d'élections libres. L'économie biélorusse dépend totalement de la Russie et Vladimir Poutine, le président russe, semble attendre son heure. L'Union européenne est à la peine, elle envisage de nouvelles sanctions contre les potentats de Minsk, mais souhaite par-dessus tout ne pas renouveler avec la Biélorussie la crise ukrainienne. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Tatiana Kastoeva-Jean.
Bonjour Daniel.
Vous êtes directrice du centre Russie NEI pour Nouveaux États Indépendants de l'IFRI. L'IFRI, c'est évidemment l'Institut Français des Relations Internationales. Votre dernier livre, je l'ai reçu ce matin, et vraiment, il y a encore l'encre de l'imprimerie pratiquement sur le livre, il est sorti vraiment il y a quelques jours, peut-être même pas encore en vente, si.
Depuis la semaine dernière.
Depuis la semaine dernière. C'est la Russie de Poutine en 100 questions. C'est une nouvelle édition d'un livre que vous aviez écrit il y a deux ans. Revu, corrigé, augmenté, et dans un format de poche, donc très pratique à lire, par exemple dans les transports en commun. Olga Gilbelova, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence au département d'études slaves à l'université Bordeaux-Montaigne. Et évidemment, merci d'être en ligne de Bordeaux. Et à Minsk, nous rejoignons Alexandre Lavignette. Bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous êtes politologue et professeur de sciences politiques. Et c'est une réalité de dire que vous êtes évidemment dans l'opposition à Alexandre Loukachenko. Et puis, nous rejoindrons au cours de cette émission Laurence Abbé de Courrier International. Alors Olga Belava, avant que nous n'abordions la situation à Minsk, je voudrais éclaircir un petit point de lexique avec vous qui êtes d'origine biélorusse. Alors, doit-on dire Biélorussie ou Bélarusse? Alors, j'ai regardé le site du ministère des Affaires étrangères français, et là, il n'y a pas d'hésitation hein, pour le ministère des Affaires étrangères français, on dit Biélorussie. Mais partout ailleurs, on a tendance à dire Bélarusse. Essayez de nous éclaircir un petit peu sur ce petit point lexical.
Donc, effectivement, il y a deux appellations aujourd'hui qui sont utilisées. Le terme de Biélorussie est un terme plus ancien. Il a été utilisé notamment à l'époque soviétique où ce n'était encore qu'une des républiques, une des 15 républiques de l'Union soviétique, la République biélorusse. Et c'est avec l'indépendance en 1991 que le pays change de nom et qui s'appelle Respublika Belarus. Ainsi, la transcription, si on le fait directement à partir de ce nom, serait Belarus. Donc aujourd'hui, ça va au-delà de cette différence, au-delà de nuances lexicaux, parce qu'il s'agit d'accepter en quelque sorte l'existence et la souveraineté de peuples biélorusses, et utiliser le terme « Bélarusse » serait probablement politiquement plus correct, surtout dans le contexte actuel.
Bon, ça ne vous dérange pas trop si j'ai écrit tous mes textes, toutes mes questions avec Biélorussie, si je continue vers Biélorussie, qui est peut-être plus compréhensible pour l'instant, en tout cas pour les Français. Alors, le Bélarusse, c'est le pays, les habitants sont donc des Bélarussiens, ce serait la traduction en français.
Oui.
Tatiana Kastoeva-Jean, de tous les pays de l'ex-Union soviétique, si je laisse de côté les pays de l'Asie centrale, la Biélorussie ou le Bélarus est probablement celui que l'on connaît le moins bien.
C'est vrai que le pays n'a pas énormément attiré l'attention, sauf pour parler du dernier dictateur de l'Europe. C'est ainsi que dans les pays occidentaux, on qualifiait Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis plusieurs années.
26 ans.
Voilà, 26 ans. Et qui, en fait, avait gardé quelque chose des anciennes méthodes soviétiques. Donc, comme il a connu l'URSS, c'est aussi un pays qui est très proche de la Russie, en fait. Et il m'est arrivé qu'on me pose la question, mais est-ce que c'est vraiment différent? Y a-t-il vraiment une différence? Qu'est-ce que c'est la vraie santé de la Biélorussie, du Bélarus? Est-ce que la langue, c'est pas vraiment la même? Et donc, on se posait beaucoup de questions sur le degré d'autonomie, de souveraineté, d'indépendance de ce pays-là par rapport à la Russie. Et il faut dire que Alexandre Loukachenko a passé plusieurs années à défendre cette souveraineté à sa manière très particulière, en refusant, par exemple, le vrai état d'union, ce que la Russie aurait souhaité, ou des pressions pour avoir une base militaire aérienne sur son territoire. Donc il n'a pas toujours été un partenaire complètement malléable et facile pour Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, on en parle parce que je crois que c'est la première fois à l'époque post-soviétique qu'il y a des manifestations de cette ampleur-là contre le pouvoir en place.
On va bien évidemment y revenir. Alexandre Lavignette, vous qui êtes à Minsk, beaucoup, j'imagine, de personnes qui découvrent la Biélorussie, le Bélarus, constatent que, évidemment, on y parle le russe. Toute la population parle russe, mais il existe une langue biélorusse, une langue bélarusse, je ne sais pas comment on dit exactement.
Elle existe. Certains gens parlent cette langue. Et encore plus, le recensement récent fait par le régime a fait que plus de 40% des Bélarussiens considèrent cette langue comme langue maternelle. Il y a encore 10 ans, c'était considéré par presque 80% de la population. Donc nous voyons le résultat de la politique de russification que le régime de Loukachenko a continué. Suite à son arrivée au pouvoir. Mais il y a des gens qui parlent, c'est une langue officielle du pays, et je peux dire que la quasi-totalité des Bélarussiens comprennent les deux langues, donc ils sont pour la plupart bilingues. Je connais pas mal de gens, peut-être c'est peut-être restreint, mais quand même il y a pas mal de gens qui parlent bélarussien par principe, parce que c'est très important, et c'est du point de vue de notre identité, mais aussi de notre indépendance et aussi du développement démocratique, je crois. La question de la langue est très importante.
Il paraît que Alexandre Loukachenko, donc l'actuel président du Bélarus, de la Biélorussie, ne parle pas très très bien le Bélarus, justement.
Non, le russe d'abord. Il ne parle pas très bien le russe. Il parle un mélange avec un fort accent russe. Et s'il veut, parfois il utilise la langue bélarussienne, mais surtout des mots un peu dans le sens péjoratif pour stigmatiser ses opposants politiques.
Olga Belova, quelle est la grande différence entre un Russe et un Biélorusse?
Une drôle de question. Quelle est la grande différence? Déjà, ils vivent dans deux États séparés.
En tout cas, la question vous laisse pantoise.
Oui, parce que vous pointez du doigt la difficulté de la formation de cette identité nationale biélorusse, qui a d'ailleurs pendant très longtemps été ignoré par le régime de Loukachenko, et c'est surtout ces dernières 5 ou 6 années, on parle de phénomène d'une marque biélorussisate, donc une biélorussisation en douceur, en quelque sorte, où il s'est réapproprié un petit peu l'agenda de l'opposition nationaliste biélorusse de début des années 90, contre lequel il a combattu pendant très longtemps. Donc aujourd'hui, on peut parler vraiment de l'existence depuis 30 ans d'un État indépendant et d'une identité biélorusse qui se renforce de plus en plus.
Alexandre Lavignage, j'ai entendu que vous aviez envie de réagir sur cette différence. Qu'est-ce qui différencie un Russe d'un Biélorusse?
L'histoire, la langue, mais aussi les modes de comportement. On est beaucoup moins impérialiste, on n'est pas impérialiste du tout. On est peut-être moins sûr de nous-mêmes, mais beaucoup plus tolérant. Et notre histoire, c'est une histoire aussi plutôt européenne, non pas une histoire euro-asiatique comme beaucoup de Russes prétendent maintenant. La langue, c'est un marqueur très important aussi.
Tatiana Kaskoulevo-Achan, ce qui caractérise aussi la Biélorussie, c'est que le pays a été particulièrement meurtri au cours de l'histoire. Évidemment, lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'ensemble de l'Union soviétique a été meurtri par cette Deuxième Guerre mondiale, mais peut-être que la Biélorussie un peu plus que les autres, en tout cas la notion de souvenir de cette grande guerre patriotique, elle est le souvenir est vraiment très marquant en Biélorussie. Et puis, plus récemment encore, lors de la catastrophe de la centrale de Tchernobyl, qui est en Ukraine, mais une partie importante des radiations se sont déversées, sur le territoire biélorusse. Beaucoup plus d'ailleurs que sur le territoire ukrainien.
Tout à fait. Je pense que ce sont les marqueurs qui sont extrêmement forts. Ça me rappelle d'ailleurs l'année dernière, à l'IFRI, j'ai reçu le vice-ministre des Affaires étrangères qui a commencé son discours en disant « Nous avons été vraiment parmi les premières victimes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est par notre territoire que toutes ces souffrances sont passées. Nous avons eu beaucoup de victimes. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de confrontation. La seule chose qu'on veut, c'est de vivre en paix avec tous nos voisins, que ce soit côté occidental, que ce soit côté russe. » Et ça, c'était très fort comme préambule au discours politique qu'il avait tenu à l'IFRI. Et je pense qu'il y a beaucoup de Biélorusses qui sont marqués par cela, par cette envie d'une vie stable, pacifique, sans confrontation avec les voisins.
Olga Belova, est-ce que vous diriez que le peuple biélorusse a une très très forte capacité de résilience?
Oui, tout à fait. Et c'est lié à l'histoire de ce territoire qui était toujours d'ailleurs le territoire de passage des grandes armées. On peut remonter un petit peu plus dans l'histoire et se souvenir des armées napoléoniennes qui ont la voie sur Moscou a passé par ce territoire. On peut parler de la Première Guerre mondiale. On peut évidemment souligner l'importance qu'a joué la Seconde Guerre mondiale dans la construction justement de cette identité biélorusse. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un élément clé dans l'invention de nouveaux récits historiques, cette guerre qui a profondément marqué la population par son côté violent. Il faut quand même rappeler qu'il y a un quart de population qui a été tué, éliminé pendant cette guerre. Donc c'est quelque chose qui marque profondément, effectivement, la mémoire collective des Biélorusses.
Alors, il semble néanmoins que cette identité biélorusse ou biélorussienne, elle a été relativement tardive. Les Ukrainiens se sont affirmés beaucoup plus tôt, je ne parle même pas des pays baltes ou même des pays caucasiens. Il a fallu plus de temps aux Biélorusses, aux Biélorussiens, pour se rendre compte qu'ils étaient Biélorusses et pas tout à fait russes, ni évidemment ukrainiens. Alexandre Lavignette.
Oui, c'est vrai que le mouvement, le printemps des nations était un peu tardif pour les Biélorussiens, mais quand même, et parfois cette identité s'affirmait par opposition à autre. On était, bon, c'était les Polonais qui ont inventé cette formule, mais quand même c'était commode de dire on était gens d'ici, on n'était pas donc ni russes ni polonais, mais le fait que les Biélorussiens soient divisés entre l'église orthodoxe et catholique jouait aussi, donc pour les russes, tous les orthodoxes étaient russes, et pour les Polonais jusqu'à l'époque contemporaine aussi, tous les catholiques relevaient de Pologne, quoi. Donc ça a joué assez fort, mais quand même on a une tradition de renaissance nationale, aussi de construction, de revendication étatique qui est assez forte et qui date aussi depuis au moins le début du XXe siècle.
Et revendication nationale et étatique qui se manifeste avec les drapeaux que les opposants, les manifestants agitent quasiment quotidiennement dans les rues de Minsk et dans les rues des autres grande ville du pays. Ce drapeau qu'ils agitent blanc, rouge et blanc, hein, en horizontal, ce n'est pas le drapeau officiel du Bélarus, Alexandre Lavignette.
Non, ce drapeau officiel, il tient beaucoup du drapeau de Biélorussie soviétique, inventé dans les années 1950, mais ce drapeau blanc-rouge-blanche date de la fin de la Première Guerre mondiale, et donc de 1918, lorsque la République démocratique, à l'époque ça s'appelait de la Ruthénie blanche, a été déclarée indépendante.
Tatiana Kastueva-Jean, ce pays, la Biélorussie, le Bélarus, a connu finalement une très grande stabilité politique, puisqu'on peut rappeler qu'Alexandre Loukachenko est au pouvoir depuis 26 ans. Personnage assez curieux que Alexandre Loukachenko, faut en dire un petit mot, un ancien directeur de Sovko, c'est-à-dire une ferme d'État, qui a grimpé un peu au sein du parti communiste, d'abord soviétique et ensuite biélorusse, et qui est un personnage à la fois, vous allez me corriger éventuellement, à la fois rustre et fantasque.
Il y a quelque chose de ça. Il suffit de voir le traitement de la crise du Covid et sa perception qui révèle quand même un personnage loin d'être banal parce qu'il avait dit qu'il n'y a pas de Covid et puis tous les virus, ça se soigne avec de la vodka et en roulant dans les champs à ciel ouvert avec un tracteur. Donc, mais en effet, il a un très fort background soviétique. Hein. Il reste encore, côté économique, par exemple, très marqué par l'importance de l'État dans l'économie. Et l'économie biélorusse, les grandes entreprises qui appartiennent à l'État jouent un très grand rôle. Et aussi côté protection sociale, parce qu'il a développé les choses dans le pays, ou plutôt a réussi à en préserver plusieurs acquis de l'époque soviétique. Et d'une manière très curieuse, Loukachenko a toujours été plutôt bien vu en Russie, bien perçu comme une sorte de l'URSS qui a réussi et qui perdure. Et les Russes vont souvent vous citer les rues très propres de Minsk, beaucoup d'ordre qui règne et les salaires qui sont payés en temps et en l'heure.
Alors on parlera évidemment avec Aurélie International et Laurent Sabé dans quelques instants de l'économie biélorusse. Olga Belova, ce n'est pas la première fois que la population manifeste après des élections truquées, mais cette fois-ci la grande différence c'est que l'ampleur de la contestation, toutes les catégories sociales sont descendues dans la rue. Il y a eu des manifestations jusqu'à 100 000 personnes, ce qui est considérable, c'était dans les rues de Minsk, notamment dimanche dernier, pour une population d'environ 10 millions d'habitants.
Oui, tout à fait. C'est la particularité de mobilisation après ces élections de 2020. Il faut dire que par le passé, après les élections présidentielles, à chaque réélection d'Alexandre Loukachenko, il y a eu souvent des manifestations, mais qui étaient beaucoup plus limitées et qui étaient réprimées très facilement. Et la différence de la situation depuis le mois d'août, c'est cette mobilisation massive qui va au-delà de celle traditionnelle de l'opposition, où il y a quand même une grande partie de la société biélorusse donc, qui se révolte, qui s'oppose, qui manifeste son mécontentement de cette manière. Et c'est quelque chose effectivement d'assez exceptionnel et, il faut dire, inattendu en Biélorussie, car encore il y a quelques mois, personne n'avait prévu ce scénario.
Alexandre Lavignette, effectivement, personne n'avait prévu ce scénario. D'abord parce que Alexandre Loukachenko avait éliminé tous les candidats potentiels susceptibles de l'affronter. Beaucoup de candidats potentiels ont été soit emprisonnés, soit ont dû prendre de l'exil. Et c'est une femme, Svetlana Tikhanovskaya, je ne sais pas si je prononce très très bien son nom, qui s'est imposée, je dirais presque malgré elle, et qui fédère toute une population, en tout cas l'opposition à Alexandre Loukachenko, qui est à l'évidence majoritaire au Bélarus en ce moment.
Oui, sa candidature était un peu par défaut, parce que son mari a été incarcéré, il est toujours en prison. Donc, mais finalement, il s'est avéré que c'est elle qui avait gagné ces élections. Et on avait pas pendant le règne de Loukachenko, beaucoup de gens posaient la question, sinon lui, c'est qui? Donc, la réponse cette année, c'était n'importe qui, sauf lui. Et donc, c'est la figure de Svetlana qui est véritablement, qui transmettait un message fort, calme et aussi très humain, qui a aidé à faire réunir tous les gens autour de sa candidature. Et les résultats de certains bureaux de vote qui nous pouvons croire comme crédible, voire comme crédible, montre que Svetlana a été en tête ayant jusqu'à 70% de suffrage.
Svetlana Tikhanovskaya symbolise l'opposition dans toutes les couches de la population. Si j'en crois par exemple le fait que des ouvriers d'une usine un peu importante de tracteurs qui s'appelle MZT, je crois, ont débrayé, ont soutenu l'opposition, alors que c'est habituellement la base électorale, la base sociale d'Alexandre Loukachenko. C'est une grande nouveauté.
Oui, beaucoup de gens qui ont peut-être soutenu, parce que Loukachenko a une histoire de truquer, falsifier les résultats des élections depuis longtemps, mais ces gens qui ont auparavant peut-être avaient voté pour lui, cette fois-ci, ils ont dit non, et c'est une réponse directe à la provocation de Loukachenko qui disait que lorsque les gens me diront qu'il faut partir, je partirai. Mais du coup, il s'avère qu'il part pas.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescal.
Carrefour de l'Europe, sommes-nous en train de vivre les derniers jours d'Alexandre Loukachenko? Est-ce l'agonie de la dernière dictature en Europe? Nous sommes avec Tatiana Kastoueva-Jean, elle est directrice du Centre Russie Nouveaux États Indépendants de l'IFRI, avec Olga Gilbelova, elle est maîtresse de conférence au département d'études slaves à l'université Bordeaux-Montagne, et avec Alexandre Lavignetz, politologue et professeur de sciences politiques, il est en ligne de Minsk. Olga Belova, la seule revendication de l'opposition semblait être le départ d'Alexandre Loukachenko et la convocation pour de nouvelles élections libres. C'est bien le cas ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense qu'il sera utile de distinguer le soutien de la population qui n'est pas accordé à Svetlana Tikhanovskaya en tant qu'une candidate éventuelle au poste du président, ce qu'elle-même d'ailleurs ne revendique pas, mais c'est une mobilisation contre Loukachenko. Donc il y a quand même cet aspect qui est beaucoup plus important, c'est le désir vraiment d'une transition politique, d'un changement de régime et surtout du départ de ce président autoritaire. Donc les revendications qui mobilisent cette population, ce sont revendications au fond de liberté politique. Donc, et aujourd'hui, le programme où les points qui sont mis en avant par le Conseil de coordination et par les leaders comme Svetlana Tikhanovskaya, c'est justement amorcer la transition politique, organiser de nouvelles élections ouvertes et transparentes. C'est suite à ces propositions que Loukachenko a finalement sous contrainte à laisser échapper une idée d'une éventuelle réforme constitutionnelle après laquelle on pourrait envisager l'organisation des élections. Mais pour l'instant, ça reste un projet.
Ça reste un projet auquel personne ne croit vraiment. La seule réponse du pouvoir, Tatiana Kastoueva-Jean, ça a été l'arrestation des opposants ou l'exil forcé de ses opposants. C'est par exemple le cas de Svetlana Tikhanovskaya, donc la candidate, celle qui a affronté Alexandre Loukachenko. Mais c'est aussi le cas de... On connaît pas très très bien le nom des opposants biélorusses, mais je vais quand même en citer deux. Maria Koleskinova, qui, elle, a refusé de s'exiler, et puis encore un opposant, Maxime Znyak, qui lui aussi a préféré être arrêté plutôt que de choisir l'exil.
Oui, tout à fait. Alexandre Loukachenko a finalement recouru vraiment aux répressions, pas de masse, mais extrêmement ciblées. Vous avez cité toutes les panoplies qu'il a déployées, avec certains cas qui sont devenus très connus. J'ai en tête l'image que j'ai vue hier sur les réseaux sociaux de diplomates européens autour de Svetlana Alexievitch, le prix Nobel de la littérature de 2015. Et pourquoi ils sont là ? Pour éviter qu'il ne se fasse enlever, parce que c'est la dernière personne du comité de coordination dont la plupart des chefs se sont retrouvés soit à l'étranger, soit en prison. Et les images qui circulent venant de la Biélorussie avec les gens tabassés ou le face-à-face entre les aumônes, les forces spéciales et la foule où il y a beaucoup de femmes et les femmes qui se mettent en premier pour protéger les hommes parce qu'on ne bat pas les femmes, l'espace post-soviétique est encore très machiste. Et aussi avec de bons aspects sur certaines questions. Ce sont les images qui sont vraiment extrêmement fortes. Il y a eu une possibilité, peut-être pas possibilité, mais en fait une voie que Loukachenko proposait pour sortir de cette crise. C'est une réforme constitutionnelle qui réduirait les pouvoirs présidentiels avec les élections organisées par la suite. Bon, on ne doute pas que dans ce cas-là, Loukachenko se serait représenté pour ce nouveau poste reformaté et aurait certainement gagné ces élections.
À environ 80% des suffrages.
Voilà, donc ça ne semble pas être vraiment la voie de sortie de crise aujourd'hui qui pourrait être acceptée par la population.
Alexandre Lavignetz, qui soutient aujourd'hui Alexandre Loukachenko ? Évidemment, les forces de sécurité qui semblent lui rester très fidèles, sauf quelques rares défections, mais à part les forces de sécurité, qui soutient Alexandre Loukachenko aujourd'hui ?
Ce sont, je crois, aussi un peu les gens qui vivent encore dans le passé, qui ont des sentiments trop nostalgiques par rapport au passé soviétique. Peut-être plutôt les gens à l'est qu'à l'ouest du pays, tout en sachant que son taux de popularité, bon, si on peut le dire, ça ne dépasse pas aujourd'hui de 25%, pas plus. Donc, et aussi peut-être plutôt les gens qui proviennent des zones rurales, mais c'est pas forcément sûr. Comme on n'a pas d'indicateurs, on n'a pas d'institut de sondage, on n'a pas indépendants, qui sont interdits en fait. Donc les élections ne montrent pas comment les gens auraient voté selon les catégories socio-professionnelles, etc. Donc c'est difficile un peu de spéculer, mais quand même on peut supposer que ce sont plutôt les nostalgique de l'Union soviétique, et les gens plutôt de la plus vieille génération, mais on a dans les rues de la ville de Minsk, par exemple, on voit les gens de toute génération qui descendent pour protester, pour montrer leur solidarité avec les détenus. Et aussi une chose très importante, donc la réponse de Loukachenko, c'était pas forcément une, cette fois-ci, pour la première fois, c'était pas une répression ciblée, mais une, on peut dire, une répression totale, brutale, avec des éléments de traitement dégradants, inhumains, et avec beaucoup de torture des gens qui ont été arrêtés déjà après leur détention.
Olga Belova, l'opposition est fédérée, si je puis dire, au sein d'un conseil de coordination qui est très déstabilisé parce que la plupart des membres de ce conseil de coordination, je crois qu'ils sont 7, ont été soit arrêtés, soit contraints à l'exil. Leur objectif, c'est de négocier le départ de Loukachenko, bien sûr, et la seule figure notable qui reste dans ce conseil de coordination, en tout cas c'est ce que vous allez me dire si je dis une bêtise ou pas, c'est justement Tatiana Shankasova l'a évoqué, Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015, justement avec ce titre emblématique, La fin de l'homme rouge, qui correspondrait bien quelque part aussi à Alexandre Loukachenko, même si c'est évidemment pas si c'est pas le thème de ce livre. Est-ce que ce conseil de coordination est totalement déstabilisé, ou à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est arrêté, eh bien, quelqu'un d'autre prend la place?
En principe, ce conseil de coordination a été créé d'une manière assez improvisée et assez spontanée après l'annonce des résultats des élections et la violence de répression dont Michel Latouchko a parlé tout à l'heure. Et c'est une structure assez ouverte. Il faut d'ailleurs souligner que dans cette structure, il n'y a pratiquement pas de représentants des partis d'opposition traditionnels qui ont survécu tant bien que mal en Biélorussie. Donc c'est vraiment une structure, une émanation de la société civile. C'est pour ça qu'on y retrouve des personnalités qui viennent des milieux assez différents. Et en principe, son fonctionnement, c'est un renouvellement permanent. Tout le monde pouvait postuler pour devenir donc le membre de ce conseil. Donc si certaines personnes sont obligées de s'exiler ou ils sont arrêtés, ils peuvent être remplacés par d'autres. Donc en principe, justement, c'est une tactique plutôt astucieuse face à Alexandre Loukachenko, donc il ne faut pas sous-estimer non plus la capacité de répression et surtout sa capacité d'éliminer toutes les personnalités potentiellement concurrentielles ou potentiellement dangereuses. Donc c'était sa stratégie depuis 26 ans, c'est régulièrement faire une forme de répression ciblée pour éviter l'émergence d'un candidat qui pourrait lui faire le poids.
Tatiana Krestoueva-Jean, on a compris que les forces de sécurité soutenaient Loukachenko, étaient en tout cas à sa disposition. Mais le seul soutien objectif d'Alexandre Loukachenko, c'est Vladimir Poutine.
Oui, bah déjà en interne dans le pays, il y a quand même ce qu'on appelle les Siloviki, les personnes des structures de force, dont on voit bien, malgré quelques défections, il y a quand même une grosse majorité qui lui reste loyale. Ça, c'est une autre question, les raisons pourquoi, mais je pense que tout autocrate qui se respecte doit choyer ces structures de force pour pouvoir compter sur eux en cas de problème, et c'est le cas de Loukachenko aujourd'hui.
Un soutien très marquant, en tout cas, de Vladimir Poutine à l'égard d'Alexandre Loukachenko. Ça a été, il y a, dans la radio-télévision officielle biélorusse, il y a eu des démissions, des journalistes qui ont dit, voilà, on refuse de continuer, en gros, à faire de la propagande au profit du pouvoir.
Et, ils
ont été remplacés, non pas par des Biélorusses ou des Bélarussiens, ils ont été remplacés par des Russes de la rédaction de Russia Today, c'est-à-dire le grand mécanisme de propagande de Vladimir Poutine, qui est notamment une télé et un site internet de grande envergure. Eh bien, ce sont des journalistes russes de Russia Today qui ont pris la place des journalistes biélorussiens de la radio et télévision
absolument. Voilà, on voit bien l'importance qui est accordée d'ailleurs à cette information, à cette propagande officielle, et que la Russie a réagi aussi sur ce canal-là. Et d'ailleurs, on revient sur la question de la langue, là, et elle joue au biélorusse plutôt un mauvais tour, la proximité et le fait que quasiment tout le monde est bilingue et comprend parfaitement le russe, et que les journalistes biélorusses peuvent être remplacés par les journalistes russes. Mais le soutien de Vladimir Poutine se manifeste aussi d'autres manières. Il a fait une déclaration qui est politiquement très forte, en disant qu'il y a des forces spéciales qui se tiennent prêtes pour partir en Biélorussie en cas où il y a des désordres, des pneus qui brûlent dans les rues, etc. On ne sait pas si c'est du bluff ou si c'est y a une réalité derrière. Mais en tout cas, politiquement, cette marque du soutien, c'est très très fort. On n'a pas trop entendu parler des aides économiques débloquées en masse, etc. Mais je pense que c'est probablement quelque chose qui se fait ou qui va se faire, parce qu'on sait que l'économie biélorusse est fragile et qu'elle est dépendante notamment des hydrocarbures russes, et ça fait un canal de lien très très fort entre les deux pays.
Et bien justement, pour mieux comprendre la dépendance de la Biélorussie à l'égard de la Russie, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Laurence Abbé.
Bonjour Daniel.
Courrier International consacre cette semaine un dossier complet à la Biélorussie que vous avez titré « Biélorussie, pourquoi le peuple se soulève ?». Je vous invite bien sûr à découvrir ce dossier, mais en attendant, vous avez choisi, Laurence, un article du journal russe Moskovski Komsomolets qui dissèque l'économie de la Biélorussie.
Oui, pour comprendre le drame qui se joue en Biélorussie, il n'est pas inutile de connaître la nature de ce pouvoir instauré par Loukachenko en 1994 et sa traduction sur l'économie du pays. Il s'agit d'un système autoritaire de type socialiste, hérité de l'époque soviétique, où l'économie est quasi entièrement sous le contrôle de l'État, à savoir le président et quelques oligarques amis de celui-ci. Les entreprises contrôlées plus ou moins directement par le pouvoir représentent 70% des emplois du pays pour 75% du PIB. Alors, selon notre article, le concept même de privatisation n'existe pas, puisque le clan de Loukachenko a verrouillé l'économie et ses hommes sont à tous les postes clés. Or, tous ces géants industriels que sont les entreprises d'État sont pathologiquement déficitaires. C'est pourquoi les économistes parlent de système déliquescent où règne l'immobilisme, pire, d'une économie d'assistanat ou inexistante, tant son modèle est dépendant de la Russie. Alors voilà les trois points qui montrent à quel point l'économie biélorusse est entièrement dépendante de la Russie. Premièrement, elle est fondée sur le transit du gaz et du pétrole russe. Deuxièmement, sa production est très majoritairement écoulée sur le marché russe. Le pays vit au crochet de la Russie en lui revendant d'énormes quantités de lait, de viande, ainsi que des produits industriels dont personne ne veut plus. C'est l'article qui continue. Et enfin, elle survit grâce aux prêts et autres subventions ou préférences. Et là encore, c'est la Russie qui est son premier créancier à hauteur de 50% devant le FMI et la Chine. Alors, il existe bien un écosystème de petites et moyennes entreprises laissées au secteur privé, qui est d'ailleurs plutôt actif. On leur permet de travailler à condition qu'elles paient leurs impôts, créent des emplois et assurent une petite partie des exportations. En attendant, la majorité des Biélorusses vit chichement. On considère que 200 dollars est un bon salaire mensuel. Et nombreux sont ceux qui joignent les deux bouts en faisant un peu d'élevage et en cultivant des pommes de terre dans leur potager.
Merci Laurence Abbé. Je rappelle un dossier complet sur la Biélorussie dans le numéro du courrier international actuellement dans les kiosques. Olga Belova, la marge de manœuvre de Loukachenko semble très très étroite. Il a été jusqu'alors assez habile pour jouer Moscou contre Bruxelles, c'est-à-dire contre l'Union européenne, et puis l'inverse, Bruxelles contre Moscou. Mais aujourd'hui, sa seule carte, c'est de céder un peu plus de souveraineté à la Russie. Qu'en pensez-vous ?
Oui, tout à fait. Je pense que cette analyse est assez juste parce que jusqu'à présent, il a essayé de diversifier un petit peu les relations du pays pour réduire cette dépendance très lourde de la part de Moscou. Et aujourd'hui, il se trouve complètement coincé. Donc, il y a souvent beaucoup de journalistes qui ont titré « Il a dû ramper donc devant Poutine pour le supplier de lui accorder son soutien ». Et c'est vrai que ça le met dans une position très peu avantageuse, qui permettra aussi probablement à Vladimir Poutine d'aboutir à la fin des négociations qui ont été lancées donc encore l'année dernière sur l'approfondissement de fameux l'état de l'Union, et surtout pousser Loukachenko probablement vers la privatisation des grandes entreprises d'État dont on a parlé tout à l'heure, car effectivement Loukachenko a gardé une donc très forte présence de secteur public dans l'économie. Et aujourd'hui, les seuls investisseurs qui seront intéressés par le rachat des entreprises seront probablement les investisseurs russes. Donc oui, aujourd'hui, sa marge de manœuvre vis-à-vis de la Russie est extrêmement réduite. Il est dans un état d'une dépendance totale. On voit difficilement comment il pourra sortir, pas céder à toutes les demandes de la Russie.
Tatiana Kassoueva-Jean, il faut rappeler aussi que les deux pays, la Russie et la Biélorussie, le Bélarus, sont liés par un traité.
Tout à fait, ça s'appelle Union d'État ou État d'Union, et ça existe depuis plusieurs années sur le papier. Il y a des facilités en matière de circulation, etc. Et en même temps, quand on regarde les documents fondateurs de cette union, on s'aperçoit qu'il n'y a pas les choses qui devaient être faites, comme par exemple le même Parlement, les mêmes organes de gestion, etc., la législation, la monnaie unique. Tout ça, on en est très très loin. Donc c'est un état d'union qui existe plus sur le papier qu'ailleurs. On en a beaucoup parlé avant la réforme constitutionnelle en Russie, en disant tiens, Vladimir Poutine, peut-être le scénario, ça pourrait être vraiment d'œuvrer à la création, à la finalisation plutôt de la création de cet état d'union pour en prendre la tête, ce qui éviterait le problème de transition en 2024. Mais finalement, Loukachenko a résisté à ce projet. Et ce qui est intéressant, en fait, je pense que Alexandre Loukachenko, en mettant aujourd'hui ses intérêts personnels au-dessus des intérêts de son État, est en train de finalement de mettre la croix sur l'œuvre de sa vie, qui était le renforcement de la souveraineté de la Biélorussie. Il a aujourd'hui finalement peu d'options au-delà de la Russie. On sait qu'avec l'Occident, la relation n'a pas été facile. Dernier dictateur de l'Europe, je mentionnais ça au début, les relations allaient quelque peu mieux ces derniers temps. Quelques sanctions ont été allégées parce que Loukachenko a fait aussi des gestes vis-à-vis des opposants. Et Minsk aussi a accueilli les négociations sur l'Est de l'Ukraine, le processus de Minsk. Donc Loukachenko était devenu quelque peu, un petit peu plus fréquentable. Et voilà qu'il tout ça d'une plume, en fait, pas d'une plume, mais avec les moyens beaucoup plus
hardes,
beaucoup plus violents, voilà, qu'il règle tout ça, tout son propre héritage, finalement, auquel il avait vraiment travaillé, œuvré tout au long de sa carrière politique.
Alexandre Lavignette, au sein des manifestations, il y en a quasiment tous les jours, et notamment des plus grandes encore le dimanche, dans la foule des manifestants, il n'y a pas de cri hostile à l'égard de la Russie, à l'égard de Vladimir Poutine. Il n'y a pas non plus de déclaration enthousiaste à l'égard de l'Union européenne. On a l'impression que le seul objectif des Biélorussiens, c'est simplement le départ de Loukachenko des élections libres. Mais après, qu'est-ce qui peut se passer après ?
Voilà. Bon, après, il faut que c'est le peuple qui tranche, et on est dans un moment très historique de notre histoire où véritablement le peuple veut avoir influence sur ce qui se passe dans le pays. Donc là, de toute façon, on a un potentiel très fort dans nos relations avec l'Union européenne, et on comprend très bien que le Bélarusse indépendant sera de toute façon suivra la voie du rapprochement avec tous les pays. Donc on sait que bon, pour les Russes, au moins pour le Kremlin, l'indépendance du Bélarusse, c'est une curiosité, c'est un accident d'histoire. Ça, on sait très bien. Et les gens, bon, maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Olga. Il s'agit maintenant des libertés politiques essentielles, et c'est très important. L'obstacle principal, maintenant, c'est Loukachenko. On voit, et je crois que à plus long terme, la position de la Russie qui soutient, défend Loukachenko va encore plus réaffirmer disons le vecteur européen du Bélarus, parce qu'on voit très bien que côté Est, on n'est pas sont pas tellement positifs à ce que le Bélarus se développe et à ce que les Bélorussiens ont un poids sur ce qui se passe, influence sur ce qui se passe dans le pays. Donc là, on essaie de voir comment le pays va évoluer, je crois que c'est tout à fait naturel. Je suis pas d'accord que le Bélarus économiquement est totalement dépendant de la Russie. Bon, même les études économiques disent que seulement 15%, jusqu'à 15%, c'était les années, on peut dire, les plus grasses, où le 15% du PNB qui était grâce au soutien russe. Mais on a les autres 85% qui marchaient plus ou moins bien. Donc, je dirais pas que toutes les entreprises sont déficitaires au Bélarus, parce que le régime Loukachenko a fait une redistribution, retenu le développement de l'initiative privée pour justement contrôler politiquement. Mais quand même, les gens, on a un secteur de l'informatique, IT secteur qui est très développé, malheureusement qui est maintenant, qui va devoir être peut-être partir du pays, mais quand même presque un milliard d'euros de chiffre d'affaires pour le secteur IT, c'est très important. Donc, il ne faut pas, je crois que le Bélarus indépendant va essayer de développer de bonnes relations voisinales avec la Russie, mais quand même va s'approcher, parce que les voix des Bélorussiens se tournent vers les pays où il y a plus de respect de dignité humaine, il y a plus de garanties pour aussi des garanties sociales, mais apparemment Bélarus,
Alexandre Milad, on a compris que les Bélorussiens, les Bélarussiens, les Bélorusses aspirent à vivre dans un état de droit. Tatiana Kastoyeva-Jean, on a quand même l'impression que Vladimir Poutine, qui est dans une position un peu difficile avec l'affaire Navalny, cet opposant empoisonné qui est en ce moment à Berlin, attend son heure. Dans quelle mesure il aurait intérêt à maintenir Alexandre Loukachenko au pouvoir, quelqu'un de plus présentable, ferait très très bien l'affaire pour Vladimir Poutine, sachant que probablement pour Moscou, le pire des scénarios serait un scénario à l'ukrainienne, où la revendication nationale biélorusse se ferait contre Moscou.
C'est sûr que le scénario à l'ukrainienne, avec un pays qui aspire à adhérer à l'Union européenne, à l'OTAN, ça c'est le parmi les pires cauchemars de Vladimir Poutine. Je pense que la Russie a raté le moment pour pousser doucement Loukachenko à la sortie. Et en fait, elle aurait gagné sur tous les plans en le faisant. Comme je dis au début, ce n'est pas un partenaire facile. Ils auraient pu mettre quelqu'un de plus facile à discuter, plus malléable, qui pourrait satisfaire aussi la nouvelle demande de la population biélorusse. Et finalement, ce choix n'étant pas fait, avec le temps qui passe et en s'engageant à côté de Loukachenko, en disant rien sur les répressions, etc., finalement, la Russie ne se laisse pas trop de choix non plus, autre que de continuer à soutenir Alexandre Loukachenko, même dans ses plus grands délires. Et on voit bien avec l'interview, par exemple, qui a été publiée hier par les journalistes de RT, même si, à mon avis, il y a eu des coupures, que la vision du monde de Loukachenko, elle n'est pas tout à fait adéquate au développement moderne. D'ailleurs, ça me fait penser, on a parlé de l'économie et du secteur IT, et il dit qu'il avait créé ce secteur IT, il a créé IT-chnik, les gens qui travaillent dans ce secteur, de ses propres mains, et maintenant c'est eux qui se révoltent et qui se soulèvent contre lui. Donc il y a une sorte de rancune. Et ça, c'est très intéressant. Moi, ça m'a fait penser à, un peu aussi à 2011 et 2012 en Russie, à ces actions de protestation où les gens de la bonne classe moyenne qui se sont enrichis sous Vladimir Poutine, finalement, se révoltaient aussi pour avoir plus de liberté, etc.
Il y a un risque de contagion à Moscou de ce qui se passe à Minsk.
C'est pas une question de contagion. Justement, j'allais venir pour rejoindre tous ces points et dire la chose suivante. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui sur l'espace post-soviétique, c'est vraiment un désir, une volonté de sortir de ce post-soviétisme. Il y a une nouvelle génération qui a grandi. L'URSS a disparu depuis 30 ans. Voir les mêmes têtes, avoir les mêmes pratiques, alors que ces pays sont ouverts aujourd'hui. Il n'y a plus de rideau de fer, il y a Internet, les gens voient comment les gens vivent ailleurs et comment ça se passe. Ils s'intéressent aux élections dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, avec l'élection de Macron en France. Dans les deux pays, les gens suivaient de près, ça les intéressait, alors que dans leur propre pays, les champs politiques sont complètement verrouillés. Et je pense que c'est pas une question de contagion, c'est vraiment une question de cette époque soviétique qui n'arrive pas à tourner la page, voilà, arriver à sa fin.
L'Union européenne paraît un peu dans l'embarras. Elle envisage des sanctions contre un certain nombre de leaders, de responsables politiques à Minsk. Évidemment, principale crainte, Olga Belova, de l'Union européenne, c'est que la Biélorussie ne devienne l'Ukraine, avec les difficultés que l'on connaît.
Oui, c'est une raison, mais il y a aussi une autre raison. Il faut savoir que pendant 26 ans, Loukachenko a passé plus d'une vingtaine d'années sous les sanctions de l'Union européenne et ces sanctions se sont révélées très inefficaces pour changer la nature du régime et pour pousser Loukachenko dehors. Donc l'Union européenne est parfaitement consciente que les sanctions ne sont pas ni utiles ni efficaces, d'où le discours sur la nécessité de maintenir le minimum de dialogue et de communication. Et le deuxième élément que vous mentionnez, qui est très important, c'est surtout éviter la déstabilisation de la région, donc un petit peu sur le scénario ukrainien. Mais c'est également une hantise partagée pour une fois par la Russie et par l'Union européenne. Personne ne souhaite d'avoir un autre donc, foyer d'instabilité et d'affrontement au cœur de l'Europe.
Alexandre Lavignette, on approche au terme de cette émission et c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Au-delà de la démission de Loukachenko, quel est l'espoir secret des Bélarussiens, j'emploie le mot juste pour terminer cette émission, vivre dans un état de droit, vivre en pleine liberté, sans crainte l'arrivée de gens un peu sombres et qui rappellent les mauvais souvenirs de l'époque soviétique et qui vous embarque menottes aux mains. L'espoir secret des Bélorussiens, c'est de vivre un peu comme les autres Européens, c'est ça l'espoir secret ?
Bah, tout à fait. Et tout d'abord, il y a trois revendications majeures, à part la démission du dictateur, c'est la tenue des élections libres, c'est la fin des répressions politiques et la remise en liberté de tous les prisonniers politiques, mais aussi les coupables des répressions doivent être devant la justice. Donc c'est ça. Et par la suite, on va s'arranger. Donc les élections, c'est un moyen, on peut dire, un moyen normal, un moyen civique de résoudre les différents politiques. Et puis, on verra de toute façon le fait que les gens se sont réveillés, revendiquent leurs droits et sont prêts à sacrifier parfois même leur vie pour la liberté, pour le droit de parler et d'être respecté, ça va pas se passer pour rien. Donc ce fait montre une nouvelle étape dans le développement de la nation politique au Bélarus. De ce point de vue, je reste très optimiste.
Merci à tous les trois. Merci Alexandre Lavignette de terminer sur cette note optimiste, alors que évidemment la situation est loin d'être stabilisée au Bélarus. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Tatiana Jean Kastueva, je rappelle le titre de votre nouvel ouvrage, en tout cas nouvelle édition, La Russie de Poutine en 100 questions, dans la collection Texto de Talendier. Olga Belova, maîtresse de conférence à Bordeaux, l'Université Montaigne. Et puis Alexandre Lavignette, qui était en ligne de Minsk. Réalisation Guillaume Muni avec Laurence Abbé du Courrier International. Je rappelle aussi le dossier dans le dernier numéro du Courrier International sur la Biélorussie. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres. Et vous pouvez bien évidemment vous abonner au podcast de Carrefour de l'Europe. L'adresse est rfi.fr, rubrique podcast. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Ezesquel, que vous soyez à Minsk, à Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.